Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée, bien sûr, comme tous les jours, par Perrine Suquet et Charlotte Méritant. Et c'est André Facetta qui est à la réalisation technique de cette émission. À la une de cette émission, des arnaques en pagaille, et surtout une arnaque qui est peut-être la plus moderne de toutes, qui a été inventée, on va dire, mais on va vous raconter tout ça en détail avec mes invités dans un instant, qui a été vraiment inventée vraisemblablement en 2005, hein, c'est pas très très vieux. Ça s'appelle l'arnaque au président. Un monsieur se fait passer par téléphone auprès d'un employé ou auprès d'un comptable pour le président de la société. Donc l'employé a un peu, comme moi tout à l'heure, le petit doigt sur la couture du pantalon, et on lui dit, mais il y a une opération discrète, secrète, attention, il faut en parler à personne, il faut virer telle ou telle somme. Alors quand on s'adresse à Michelin ou Galerie Lafayette ou à Disneyland, ça se chiffre par centaines de milliers, voire par millions d'euros. Donc on est loin du faux policier qui s'introduit chez la vieille dame pour dire qu'il cherche un voleur qui écume le quartier et qui lui pique ses bijoux. Mais c'est la même chose au fond. Et puis Christophe Paco disait, que fait la police? On va vous dire ce qu'elle fait. Elle en arrête quand même pas mal, et il y a même une brigade spécialisée qui a été créée pour lutter contre ce type de criminalité. Elle s'appelle la BFMP, la Brigade des fraudes aux moyens de paiement. Mais sauf que c'est un groupe, vous l'imaginez bien, extrêmement discret, qui ne communique pas beaucoup sur ses enquêtes. Donc j'accueille pour vous raconter tout ce que nous savons sur ces arnaques au faux président mes deux invités. Maître Sylvie Noakovitch, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Évidemment, bien connu, comme on dit dans la presse sportive, des auditeurs d'RTL. Vous êtes avocate, et vous êtes l'avocate d'une femme dont vous allez nous parler dans un instant, qui a été l'une des victimes d'un maître en la matière, vraisemblablement celui qui a été le pionnier de cette arnaque particulière, qui s'appelle Gilbert Chicly, tellement célèbre finalement qu'un film va sortir sur nos écrans le 30 décembre prochain, un film de Pascal Elbé, avec le personnage principal s'inspire évidemment de la vie de Monsieur Chicly. Et pour en savoir plus sur cet homme, Valérie de Senneville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service société du journal Les Échos, et vous avez pu rencontrer Gilbert Chicly. Alors, il a été condamné au mois de mars dernier, je crois, très lourdement en France, mais enfin, c'était par contumace.
Il était déjà parti. Voilà. Alors, Ashdod.
Oui, en Israël, donc pas loin de Tel Aviv, et effectivement, Israël, comme la France d'ailleurs, n'extrade pas ses ressortissants. Donc voilà, mais il a accepté de vous recevoir. Donc,
il a accepté de me recevoir, oui. Après moult tergiversations et textos envoyés via certaines personnes,
des rendez-vous à tiroirs,
des mails, c'était très très compliqué.
Des halls d'hôtel, et finalement une maison, la maison du maître, du maître escroc, bien sûr. Alors, je reviens à vous deux dans un instant, mais d'abord je voudrais qu'on entende un premier document RTL pour que ceux qui nous écoutent se fassent une idée un peu plus précise de cette arnaque au président. Comme on a commencé vraiment à en parler de plus en plus ces dernières années, en décembre 2014, donc en fait il y a un an, le 13 décembre très exactement, Damien Delceni du service police-justice d'RTL et Bernard Poirette racontaient aux auditeurs le scénario le plus fréquent de cette escroquerie particulière.
Leur plan d'attaque est simple, ils se font passer pour le PDG ou le directeur général de l'entreprise et contactent par téléphone un cadre de la société visée, souvent en poste dans une filiale et qui a suffisamment d'autorité pour accéder au compte. Ils lui demandent alors, dans le plus grand secret, d'effectuer un virement vers l'étranger. Pour le convaincre, ils évoquent un contrôle fiscal imminent ou une OPA hostile en préparation qui rend cette opération urgente. Alors la ficelle paraît grosse, mais ça marche. La victime, loin d'être naïve en principe, est cadenassée, pour reprendre l'expression du commissaire Jean-Marc Souvira, le patron de l'office spécial spécialisée de la police judiciaire qui gère en ce moment près de 80 enquêtes sur ce type d'escroquerie en France et qui assure que chaque jour, deux entreprises en moyenne sont visées.
C'est l'élément humain qui va défaillir. C'est-à-dire que si la personne est convaincue d'avoir au bout du fil son directeur général, son président, ou d'avoir la bonne personne, elle va engager le paiement. Et en fait, si elle se posait simplement la question, c'est est-ce que cette demande n'est pas aberrante ? Dans 80% des cas, le paiement n'aurait pas lieu.
Voilà, mais dans des dizaines de cas, le paiement a eu lieu. Record, 23 millions d'euros pour une seule entreprise. Un jackpot pour les escrocs.
Mais ces escrocs, Damien Delceni, qui sont-ils ? Est-ce que la police en a identifié quelques-uns ?
Oui, bien sûr, mais comme ce sont des professionnels, ils ont tout prévu. Français, ils ont obtenu la nationalité israélienne et vivent en Israël, d'où ils pilotent leurs arnaques en toute impunité, puisque même s'ils sont identifiés, ils ne seront jamais extradés. L'argent qu'ils détournent, ils le récupèrent via des mouvements de fonds qui transitent par la Chine. Seuls quelques-uns un peu moins prudents ont pu être arrêtés, comme cet homme venu en France récemment et qui se croyait protégé par une fausse identité. En même temps, il ne risque pas de longues années de prison. C'est tout le charme de cette arnaque, beaucoup plus lucrative. Elle est aussi beaucoup moins risquée que le traditionnel braquage.
Oui, je rappelle le chiffre que je donnais tout à l'heure, juste avant les infos, 350 millions d'euros au bas mot, récoltés aux dépens de 700 grosses sociétés depuis 2011, c'est-à-dire en 4 ans, ce qui est quand même...
Des grosses et des petites sociétés aussi. Hein,
c'est assez... Alors, justement, merci. merci Valérie de Senneville de faire la remarque, parce que dans cette émission, tout à l'heure, on entendra un témoignage exceptionnel, c'est Charlotte Méritant qui l'a recueillie pour l'heure du crime. Carole Gratzmüller, elle est PDG justement d'une PME qui s'appelle Etna Industries. Elle connaissait cette arnaque. Elle avait pensé simplement que c'était les entreprises du CAC 40 qui devaient se méfier, parce que sa société génère quand même beaucoup moins d'argent que les grosses sociétés. Sa comptable est tombée dans le panneau et elle a raconté en détail comment ça s'est passé. Et ça a failli lui coûter 450 000 euros. Quand même. Pour une PME, c'est un drame, quoi. Alors, je viens à vous tout de suite, Sylvie Novakovic. Est-ce que vous pouvez, en quelques instants, nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour votre cliente, cette femme que vous défendez, qui a été au procès et qui est une des rares à avoir porté plainte?
Tout à fait, c'est une des rares personnes à avoir déposé plainte parce qu'elles ont honte. Elles ont honte de leurs gestes, alors qu'elles n'y sont pour rien. Elles ont été extrêmement manipulées. Et cette personne, si vous voulez, en l'occurrence, était directrice de la Poste. Elle a reçu...
Une agence de la Poste, quoi.
Voilà. Ouais. Alors, ces personnes-là n'ont pas accès à leur président directeur général. Ouais. Donc, c'est tout le problème, c'est toute la ficelle, effectivement, de ces escrocs. Donc, quand elle est appelée, alors même qu'elle est en phase de devoir être reconnue, elle a besoin, elle est fidèle, elle est travailleuse. Ouais. Et quand elle reçoit un appel de son PDG qui lui dit « Voilà, je vous appelle parce que j'ai confiance en vous, parce que vous êtes formidable, vous êtes vraiment celle que j'ai reconnue. Eh bien, j'ai un grand service à vous demander, car on est en train de bloquer un fillon, en ce sens qu'il y a actuellement un terrorisme international et on est en phase de trouver comment les bloquer. Il y a un blanchiment d'argent, donc il faut scanner les billets et ensuite on va les numéroter. Vous allez le remettre à cette personne-là et ensuite...
Cette personne étant un agent de la DGSE.
Hein, absolument, cette personne est l'agent de la DGSE, dénommé Paul, et elle est persuadée que cet homme a raison, puisque c'est son directeur qui l'a envoyé vers elle, et à ce moment-là, elle va dans les toilettes...
Avec 350 000 euros, quand
avec
même,
350
valise, hein.
000 euros dans une valise, elle pense vraiment avoir affaire à un agent de la DGSE, elle pense qu'elle est investie d'une grande mission, et elle va le déposer comme convenu dans une brasserie, dans les toilettes d'une brasserie, et on lui dit surtout, ne regardez pas la personne qui va prendre la mallette. On va ensuite prendre la mallette, on va les scanner, on va les numéroter et ensuite on va vous les redonner.
Voilà, à la terrasse d'un autre café dans
Exactement.
Paris, mais vous serez averti par un message spécial, etc.
Exactement, mais il faut savoir aussi que pour arriver à cela, il a fallu un harcèlement téléphonique terrible, pas moins de 43 appels en l'espace de 3 jours, des harcèlements téléphoniques aussi la nuit, elle a dû prendre un portable personnel, elle a dû vraiment subir un tel harcèlement, et d'ailleurs le film le révèle vraiment bien, cette femme n'en pouvait plus, elle était épuisée, exténuée, elle a eu des doutes, emprise par les doutes, mais à chaque fois, fois, il l'appelait pour effectivement la détruire psychologiquement.
Et elle n'a jamais vu son interlocuteur.
Jamais.
Cet agent secret supposé, mais qui avait une voix extrêmement convaincante. Alors, on va revenir sur tout
voilà.
ça. Vous allez continuer à nous raconter, évidemment, ce que vous a dit votre cliente, parce que cette femme a été un peu, on peut le dire, détruite par cet
détruite.
Événement.
Détruite. À la suite, elle était terrible.
C'est quand même très, très grave, les conséquences
Absolument.
De tout ça. Et puis, avec Valérie de Sennevide, dans un instant, bah, elle va nous faire le portrait vivant de cet homme, puisqu'elle est allée le voir en Israël et qu'il l'a reçu pour son journal Les Échos. A tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et à la une de l'heure du crime, les faux présidents qui sont, il faut bien le dire aussi, souvent des vrais millionnaires. Alors, on va en parler maintenant avec mes invités. Donc, Maître Sylvie Novakovic, on l'a dit, est l'avocate d'une des victimes de Gilbert Chicly, l'homme qui a eu le premier, vraisemblablement, cette idée d'Arsène Lupin des temps modernes. Et avec Valérie de Senneville, grand reporter, je me suis trompé sur vos fonctions tout à l'heure, je suis désolé, grand reporter aux Échos Week-end. Et c'est d'ailleurs pour les Échos Week-end que vous êtes rendu en Israël. Vous avez réussi à prendre contact avec des Russes, pour le coup, d'agents secrets, parce que c'était lui l'agent secret hein, dans oui. cette affaire, là, Gilbert Chicly. Et vous l'avez rencontré. Alors racontez-nous cette rencontre, faites-nous le portrait de cet homme, dites-nous d'où il vient, comment il a eu cette idée incroyable et comment il vit quoi, au quotidien.
Comment il vit Il vit en famille.
Il vit bien.
C'est assez incroyable. tout est incroyable avant de le voir. Et quand on le rencontre, on se dit, mais en fait, il ressemble à rien.
Tout ça pour ça. C'est pas quelqu'un qui a un charisme extraordinaire, visuel en tout cas.
Visuel ouais. en tout cas. Mmh. Et tout change quand il commence à parler ouais. et quand l'interview commence.
Ouais.
Dire que là, on a la sensation en tant qu'intervieweur de monter sur un ring mental, toujours en position de défense.
Ah oui.
Parce qu'il va choisir tout. Toutes les failles, un coup à droite, un coup à gauche, il est tout le temps en éveil sur la moindre de vos paroles. Oui. En tant qu'intervieweur, vous êtes aussi en éveil.
Et oui.
Et du coup, ça,
donc c'est un match, quoi, en fait.
C'est un match.
Une sorte de match, ouais.
C'est un match ouais. qui se passe dans une ambiance familiale. Il y a des jouets partout dans la maison. Il y a sa petite fille qui a 6-8 mois. Ouais.
Une belle maison qui vous fait visiter.
Une belle maison qu'il me fait visiter avec une piscine, ouais. Un jardin, ouais. des trous dans le mur. Du jardin, alors on se demande qu'est-ce que c'est.
Oui, c'est près du gardien de la sécurité.
Et
oui.
Ce sont des impacts de balles. Ah. Et il vous explique oui. qu'effectivement, il a un gardien et de la télésurveillance oui. parce qu'il a peur du kidnappage, sic,
oui.
de oui. ses enfants.
Peut-être aussi, il a quand même dénoncé quelques complices au cours de sa carrière.
Moins ça que la mainmise de la mafia sur
D'accord.
l'escroc.
Eh oui,
parce que quand il a grossi, j'allais dire, en tant qu'escroc,
ouais, ouais.
Et c'est ce que le film d'ailleurs de Pascal Elbé
oui,
montre parfaitement,
ouais.
c'est que il pouvait plus faire ça tout seul dans sa cuisine, quoi. Hein.
Ouais, d'accord. Ouais.
Donc il est passé au stade pour blanchir. Il ouais. lui a fallu des réseaux mafieux.
Ah oui, d'accord.
Et c'est la mafia israélienne qui après,
oui,
voilà.
peut être très intéressé par le magot, quoi. Voilà. Mmh. Alors en plus de ça, mais il est très fier de sa maison. Il vous montre sur le mur. Il y a le plus grand écran plat du
oui,
monde. Hein, c'est ça, non
oui. Qui diffuse à longueur ouais. de journée. Je l'ai vu sur 3 jours.
Ouais.
Des programmes. Pour la jeunesse, puisqu'il y a sa petite fille, etc., qui ouais. sont devant ouais. le plus grand écran. Ouais. Et nous, on est dans la cuisine, d'accord. en train de prendre une cuisine immaculée et blanche.
Alors, à part ça, c'est un monsieur qui est né et qui a passé toute son enfance, sa jeunesse à Belleville.
Oui.
À Paris, on pense à la vérité si je mens, mais lui aussi, apparemment, parce
oui.
que quand vous lui avez dit, mais il y a un film, il l'avait vu, je crois,
oui,
parce que le réalisateur Pascal Elbé l'a rencontré. L'acteur qui incarne son personnage, Vincent
oui.
Elbaz, l'a rencontré également, évidemment, pour pas être à côté de la plaque. Et il dit, oh, ben, c'est dommage, moi j'aurais préféré Bruno Garcia.
Oui, exactement.
Tout à fait. Et Vincent Elbaz m'a dit qu'il était très vexé, d'ailleurs.
Oui. Alors, il y a ce côté-là. Et puis, il y a bon, l'enfant de Belleville. Bon, il commence ses escroqueries à l'âge où on vole des bonbons, quoi.
Voilà,
hein,
exactement.
Apparemment.
Mais il a ça dans le sang, en fait. C'est vraiment sa drogue, son kiff. Et puis, il voit pas franchement. Ce qu'il y a de malhonnête, c'est son job.
Ouais.
C'est son job.
Oui.
Et il dit même que pour lui, il joue au loto, qu'il fait du mal à personne, etc. Donc, lors de l'audience.
Il n'y a pas de sang, ça c'est sûr, il n'y a pas de sang.
Exactement, il dit y a pas de sang.
Mais il dit après tout,
ce sont des gens qui ont de l'argent, ça ne cause aucun préjudice. Mais c'est faux, parce que derrière, il y a des pauvres personnes qui perdent leur travail, et c'est le cas de ma cliente, qui a tout perdu.
Ça, on reviendra sur cet aspect-là des choses avec vous tout à l'heure, pour parler du procès quand même qui a lieu. Mm-hmm. Même s'il n'était pas dans le box des accusés, il y avait quand même des complices.
Et puis, il était représenté par son avocat.
Et il était représenté par son avocat, que vous connaissez également, Valérie de Senneville. Alors, là, on fait une petite pause, des points de suspension, et puis ensuite, on vous raconte ensemble, puisqu'il vous l'a confié au cours de cette interview, comment, un jour, il a eu l'idée de cette escroquerie au faux président et aux faux agents secrets.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et à la une de l'heure du crime, les escroqueries au président.
Allô ?
Votre président à l'appareil.
Mon président ?
Oui, votre président. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission.
Une mission, vous dites ? Pourquoi moi ?
Parce que j'ai une totale confiance vous concernant.
Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous participez à une mission d'État.
Tenez-vous prêt.
Avant l'intervention de mes hommes,
le virement est fait. Bravo, grâce à vous, cette entreprise terroriste va être mise en échec.
Voilà, c'est le scénario dont on parlait tout à l'heure, dont s'inspire donc Vincent Elbaz pour ce film qui va sortir sur les écrans donc le 30 décembre. J'ai confiance en vous. C'est le titre, hein. Je m'adresse à Valérie de Senneville parce que ouais, j'ai confiance.
Le titre du film, c'est « Je compte sur vous ».
Je compte sur vous, pardon. Ouais. Ah oui, confiance.
Mais c'est ce qu'il a dit, effectivement. Oui,
c'est ce qu'il vient de dire à l'instant. Alors, le personnage de Chicli, donc, qui a inspiré le film, est interprété par Pérez, hein, c'est ça?
Oui.
Et Julie Gayet dans le rôle de sa femme, hein, Barbara Pérez, hein, c'est ça? Alors... Ça vous a énervé, Sylvie Novakovic, quand vous avez appris qu'il y avait un film qui allait sortir en s'inspirant de cette histoire et des malheurs de votre cliente?
Attends, le fait qu'il y ait un film, c'est parfait parce que ça informe tout le monde, justement, des méfaits possibles et c'est très très bien, au contraire. Mais en revanche, ce qui est très énervant, c'est que Julie Gayet et l'équipe du tournage a côtoyé effectivement Gilbert Chicli, alors qu'il y a quand même un mandat d'arrêt international contre lui. Il faut le savoir et je me dis, mais mince! Alors, il y a un mandat d'arrêt international. Il est toujours pas arrêté, toujours pas incarcéré, et il peut côtoyer tranquillement et donner des conseils pour un film. Il est même payé pour ça apparemment, j'en sais rien, mais enfin a priori. Donc c'est quand même scandaleux, enfin c'est énervant. Faut penser à ma cliente qui a été victime, qui a tout perdu à cause de cette affaire.
Alors Valérie de Senneville va nous éclairer justement sur le propos de Elbaz, parce que vous avez aussi interviewé pour Les Échos, donc Vincent Elbaz. Et lui, il vous a dit ce qu'il avait déclenché pour consacrer un film à ce personnage.
Alors, il avait lu dans les quotidiens la mésaventure plus que dommageable de cette directrice de la Poste. Il avait trouvé ça... c'est vrai qu'il y a un côté romanesque, quand même. Et quelques temps après, son réalisateur, lui dit, écoute, voilà, j'ai rencontré un type, il s'appelle Gilbert Chicli, et il s'aperçoit que c'est la personne qui était à l'origine de cette escroquerie. Et ils vont le rencontrer en Israël. Et après, la difficulté, ce que dit très bien Elbaz, c'est que
ce qui l'intéresse, c'est la psychologie des personnages et pas le scénario de ce qui leur est arrivé.
Parce que dans une
de la victime et de l'escroc. Il faut être deux. Ouais.
Voilà. Dans une escroquerie, il faut être deux.
Ouais.
Alors, il y a d'un côté Chicli, dont on voit que c'est un petit gars de Belleville qui a grandi dans l'escroquerie et il est baigné dedans.
Mais attendez, il a fait le cours Florent, il vous l'a dit dans son interview.
Voilà.
Il était comédien quand même.
Il a fait
une formation de comédien. Oui.
Ce qui lui a appris aussi, et ça je l'ai remarqué en l'interviewant, quand je l'ai eu avant au téléphone, de poser sa voix. Et j'étais très étonnée.
Il travaille sa voix au téléphone. Les gens le voient pas.
Il n'a absolument pas la même voix.
Il n'a pas la voix de son physique.
Et non seulement de son physique, mais en plus, quand je l'interview...
Ah oui, c'est plus la même voix.
Ah, c'est plus du tout la même voix.
C'est un acteur, quoi. Voilà.
Voilà. Et d'ailleurs, il vous fait le coup au téléphone. C'est plus fort que lui. Quand je vais pour le... pour le rencontrer. Je suis à Paris, j'ai toutes les peines du monde à l'avoir au téléphone. Oui. J'essaye de l'avoir en direct, je ne l'ai jamais en direct. Mmh. Et quand, enfin... je finis par dire, écoutez, si je n'ai pas l'assurance de rencontrer Monsieur Chikli, je ne viens pas. Mon journal ne va pas payer
un billet d'avion pour Israël.
Il finit par me rappeler un soir à 23h30 pour me dire, quand je donne ma parole, je la tiens. J'ai failli lui dire, excusez-moi, la parole d'un escroc.
C'est magnifique, ouais. Voilà. Alors, il vous a dit au cours de cette interview quel a été le déclic, qu'est-ce qui lui a donné l'idée du scénario de l'agence secret. Et ça, ça remonte autour des années 2000.
Voilà. Alors, il y a plusieurs versions, parce que sa version évolue.
Les attentats de Madrid et de Londres. Voilà. Hein, les attentats terroristes de Madrid et de Londres.
Madrid et de Londres. Oui. Il se dit qu'il y a un filon, ce qui est repris dans le film. Il dit, je sais pas, il commence à avoir des idées, mais c'est le même scénario, si j'ose dire, que quand il volait les cahiers à la coopérative de son école. Il m'a raconté ça à 8 ans, il volait les cahiers. Donc c'est la même chose. Il se dit, il y a de l'argent à se faire là-dedans.
Voilà. J'appelle une banque, je leur dis, ou une société, c'est la DGSE, on traque des terroristes, il nous faut de l'argent absolument, on va les suivre, vous allez peut-être éviter un drame, vous serez un héros national.
Ouais, mais avec une vraie technique quand même, et ça, il ne veut pas l'admettre. Mais effectivement, le sujet, c'est d'abord d'isoler la proie.
Ouais.
On lui fait acheter un téléphone, d'abord on l'isole. Mmh. Ensuite, on la culpabilise. Parce que ce qu'il fait avec la Poste, c'est lui dire, quand même, vous n'avez pas accueilli des clients un peu douteux dernièrement? Il n'y a pas des gens qui sont venus vous déposer du liquide? Il y a toujours des gens qui déposent du liquide dans une banque.
Ah, vous avez fait une erreur professionnelle.
Vous avez quand même fait une erreur. Ça, mais quand même, j'ai confiance en vous.
Ouais. C'est ça, c'est comme ça qu'il a...
Tout à fait, mais c'est surtout...
Il avait son téléphone portable?
Alors en fait, au départ, il... Oui, bien, alors je vais vous dire comment il a pu... Oui. C'est pour ça que c'est beaucoup plus... Dans le film, on a l'impression que c'est improvisé, mais c'est pas, dans la réalité, c'est pas improvisé, puisque quelques mois auparavant, il s'est arrangé pour appeler la mère de ma cliente sous forme d'un sondage, soi-disant pour un jeu télévisé. Et à ce moment-là, la mère a tout raconté sur la vie personnelle de ma cliente, dont des détails intimes que personne ne pouvait savoir. Donc c'est là où elle s'est dit, bon, bah, c'est bien un agent de la DGSE, il ne peut pas savoir certains détails personnels.
Il ne peut pas le savoir, bien sûr.
Exactement. Bien sûr. Et ça l'a vraiment mis en confiance.
Ouais. Voilà, donc là, on voit tout le machiavélisme extraordinaire. Bon, de toute façon, on a tendance à dire, oui, plus c'est gros, plus ça passe. Mais enfin, il y a du boulot derrière, si j'ose dire.
Oui.
On fait une pause. Derrière cette pause, on va entendre un témoignage. Là, il ne s'agira pas du tout de M. Chikli, mais d'un de... Quelquefois, les élèves dépassent le maître, aussi. et on va en juger par l'histoire qui est malheureusement arrivée à Carole Gratz-Müller, présidente d'une PME, qui a raconté ses mésaventures à Charlotte Méritant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
On est en compagnie de maître Sylvie Noakovitch, avocate de l'une des victimes de Gilbert Chikli. Et dans quelques minutes, on reviendra sur le procès, sur comment sa cliente a vécu, directrice d'agence de La Poste a vécu ce qui a été pour elle quand même un drame. Valérie de Senneville, elle, journaliste aux Échos, et a rencontré Chikli très longuement. On reviendra également sur d'autres aspects de la conversation qu'elle a eue avec lui. Puis là, je suis en train de me dire, au moment de prendre le micro, je me dis, mais finalement, parmi les auditeurs d'RTL cet après-midi, il y a peut-être, je sais pas, un comptable ou un employé à la direction d'un grand groupe qui, un jour, a été en butte à une tentative, au moins, d'escroquerie. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas, 3210 pour le standard téléphonique d'RTL ou RTL.fr si vous préférez les courriers, mais là, je préfère carrément le 3210, je vais vous le dit tout net, ça va quand même plus vite. Maintenant, nous allons, pendant quelques minutes, écouter un témoignage très fort, c'est celui de Carole Gratz-Müller, donc présidente de la PME Etna Industries. C'est une entreprise de composants hydrauliques qui est basée à Argenteuil, dans le Val d'Oise. A priori, ça peut pas être la cible d'un escroc. Et pourtant, écoutez ce qui lui est arrivé, elle l'a raconté à Charlotte Méritant.
La façon dont ça s'est passé chez nous, c'est en fait, en mon absence, un vendredi matin, d'abord un appel à notre responsable comptable en lui demandant, en lui disant que, eh bien, elle allait recevoir un email de ma part et ensuite des instructions par l'intermédiaire d'un avocat et d'un consultant pour conduire une opération tout à fait confidentielle pour laquelle on l'avait choisi et qu'en même temps, ça devait rester très confidentiel, elle n'aurait d'instruction que par email. Suite à cet appel, effectivement, elle reçoit sur sa boîte mail professionnelle un email qu'elle pense venir de moi, même si ce n'est pas mon adresse tout à fait habituelle, où je lui explique qu'effectivement, on allait conduire une opération à rachat d'une société et que donc elle allait recevoir des instructions. Il faudrait qu'elle les suive très précisément, mais surtout de ne pas me contacter par téléphone. À ce moment-là, le mail dit « Vous allez donc être contacté par un avocat, un consultant », ce qui se produit. Et donc, il y a des appels téléphoniques qui suivent, avec une pression psychologique assez intense pour qu'elle fasse tout ce qu'on lui demande de faire. Et toujours la même précaution à prendre, ne surtout pas téléphoner, que tout se passe par email. Donc, effectivement, elle finit par faire... on lui demande de faire un virement quand même de 500 000 euros pour acheter une société basée à Chypre. Comme il se trouve que nous, on n'a pas cet argent sur un seul compte bancaire, elle répartit les virements sur plusieurs banques, elle envoie les ordres de virement. Et ensuite, bon, tout ça nous amène à peu près en fin de matinée. Moi, je rentre à l'heure du déjeuner, mais en fait, elle ne me parle de rien à ce moment-là, si ce n'est que peut-être une heure plus tard, elle vient me voir et me dit « Carole, il y a une banque au téléphone ». Donc, je lui dis « Ah oui, et pourquoi ?» Elle me dit « Pour valider un virement ». Quel virement? Elle me dit, les virements que vous m'avez demandé de faire ce matin. Et là, à ce moment-là, comme je n'avais rien demandé du tout, étant donné que je n'étais pas là, je lui dis, non, il y a un problème. Donc, je prends la banque au téléphone qui me dit, voilà, c'est un contre-appel. Est-ce que vous voulez valider le virement de 150 000 euros à destination de Chypre? Et je lui dis, non, pas du tout. Et à ce moment-là, je lui demande ce qui a été fait. Je rappelle les autres banques, parce qu'il y avait quatre banques concernées. Les 500 000 avaient été répartis sur quatre banques. Et donc, il y avait trois banques qui étaient en attente d'un contre-appel pour effectuer le virement, donc ceux-là, j'ai pu les stopper, et puis il y a une banque qui avait fait le virement. Et donc, effectivement, nous, on a mené l'affaire devant les tribunaux, et en octobre 2014, la banque a été condamnée pour négligence. Donc, nous avons récupéré nos sous par rapport à ça.
C'était un montant de 100 000 euros, c'est ça ?
100 000 euros, oui. En fait, on a un petit peu limité la casse, parce qu'au départ, ça aurait pu être 500 000 euros. C'était 500 000 euros qui étaient demandés dans la transaction.
Est-ce que cette histoire a eu des conséquences sur votre entreprise ?
Alors, ça a eu des conséquences, oui. D'abord parce que c'est difficile, ça fait peur, ça nous rend vulnérables. Donc, après, il y a quand même eu toute une sensibilisation à la sécurité, etc. Cela dit, ce sont des gens très adroits parce qu'ils font exactement ce qu'il faut pour amener les gens à faire ce qu'ils demandent. Donc il y a une espèce de pression psychologique, une empathie, etc. Il joue sur la flatterie, sur tout un tas de d'émotions. Et en fin de compte, ils arrivent à faire à des gens des choses qui sont autrement un peu impensables quand même.
Voilà, c'est un témoignage très intéressant à deux titres. Je pense aussi aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et aux banquiers également, au personnel des agences bancaires. Il vaut mieux quand même faire un contre-appel, effectivement, et ne pas virer de l'argent comme ça sur un coup de fil. Ça semble évident et on se dit, mais comment c'est possible? C'est possible, la preuve. Ce genre d'histoire arrive et cette femme, Madame Gratz-Müller, s'en tire à bon compte finalement, puisque la banque qui n'avait pas fait de contre-appel a été condamné quand même à payer et à rembourser la PME, parce qu'une PME peut être sur les genoux.
C'est une vraie responsabilité de la part de la banque, c'est inadmissible.
Voilà. Alors, je voulais qu'on entende ça. On fait une pause tout de suite, c'est la dernière de l'émission. Et après, on passe au procès et à ce que les victimes, comme celle qui est votre cliente, donc, qui, elle, s'est sentie terriblement coupable par rapport à la Poste, bien sûr, d'avoir mis 350 000 euros dans une valise et de les avoir abandonnés dans des toilettes d'une brasserie et qui s'était fait berner, quoi. On va parler de tout ça. Et puis, vous nous direz quand même comment la justice a réagi, qui a été condamné dans cette affaire, en dehors de celui qui, lui, ne sera pas extradé de sitôt, si j'ai bien compris.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
C'est la dernière partie de cette émission consacrée aux escroqueries au président, et notamment, on va revenir maintenant au personnage de Gilbert Chicly, donc l'initiateur de tout ça, le pionnier, qui après les attentats de Londres et de Madrid aux alentours de des années 2000, s'est dit, tiens, mais bon sang, mais c'est bien sûr, un agent secret va appeler des sociétés, leur demander de rentrer dans une manie pour traquer des terroristes, et puis ça va marcher. Alors, il faut dire que, après, il y a eu le coup de la Poste, Sylvie Nokovic, le coup de la Poste, c'est 2005, et là, il va se passer 3 ans, parce qu'il est déjà parti en Israël, mais là, il va être extradé. Comment c'est possible qu'il ait été extradé une fois, vous le savez, ou pas?
En fait, ils ont réussi effectivement à le faire venir en France, parce qu'à un moment donné, il s'avère qu'il allait...
Parce qu'il a été mis en examen 3 ans après.
Parce qu'il se rendait régulièrement en France aussi. Oui. Mais il faut savoir qu'au départ, il a été incarcéré, détention provisoire.
Il a fait 3 ans de provisoire.
De détention provisoire. Voilà. Il a eu un contrôle judiciaire.
Oui. En 2011.
Voilà, et pour que ce soit clair pour les auditeurs, contrôle judiciaire, ça veut dire qu'il avait des obligations.
Oui, d'aller pointer...
Voilà, et devait rester en France. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a pris la poudre d'Esc, en fait. Voilà, le président est parti. C'est cassé, j'allais dire.
Il est parti.
Bon, alors, maintenant, en mars dernier, il y a le procès quand même. Il y a des gens dans le box, des accusés.
Il avait
dénoncé des complices. Comment? Ou c'est le travail de la police?
C'est un gros travail du juge d'instruction. Et il faut savoir quand même qu'il y a eu 13 condamnations. Hein, 13 condamnations au mois de mai. Donc, c'est pas rien. Il y a eu des complicités parce qu'il n'a pas pu faire ça tout seul.
Combien la condamnation? Parce que lui, il a pris 7 ans, mais par contumace. Mais les autres, c'est de quelques mois à quelques années.
Lui a pris 7 ans. Il a été condamné à 1 million d'euros d'amende, sans compter toutes les victimes qui doivent être indemnisées. Précise qu'il y a eu un appel en cours et qu'il y a quand même la cour d'appel qui va devoir restatuer. Bien sûr, il y aura un nouveau procès puisqu'il y a eu beaucoup d'appels. Mm-hmm. Alors, vous avez des gens qui ont pris du sursis, 2 ans d'emprisonnement, donc 15 mois avec sursis. Un autre qui a pris 2 ans, donc 15 mois. Un autre qui a pris 2 ans. En général, c'est de 2 ans, 3 ans.
À quel titre ils avaient participé à l'opération?
Eh bien, en association de malfaiteurs, c'est qu'en fait, il y a eu des complices qui ont aussi téléphoné, d'autres qui ont blanchi l'argent.
C'est quand même une opération.
C'est une énorme opération, très lourde, contrairement à ce qu'on peut voir quand on voit le film, après que c'est qu'un coup de fil. Non, c'est beaucoup plus lourd que ça.
Surtout que la Poste, c'est une escroquerie parmi d'autres, en fait.
Une escroquerie et la première parmi d'autres qui a fonctionné, donc ça a été ensuite la boule de neige.
Alors, parlez-moi de votre cliente.
Alors, ma cliente, moi, je me rappelle toujours toute ma vie ce premier rendez-vous qui s'est passé en mon cabinet quand elle est arrivée. Elle sortait juste du commissariat où elle avait déclaré, effectivement, qu'elle s'était fait avoir. Elle a remarqué en venant, effectivement, que sa sacoche, qu'il n'y avait plus de sacoche, il n'y avait plus rien et que personne n'est revenu la voir. Donc, elle a compris que c'était une escroquerie. Elle était totalement détruite psychologiquement. C'était une femme qui était totalement dépressive et elle m'a dit, oh là là, je risque la prison. Parce qu'en fait, la première chose qu'elle pensait, c'est qu'elle est être considérée comme une complice.
Ah, bien sûr.
Donc, tout de suite, je lui ai indiqué que ce n'était pas une complice, qu'elle a été manipulée, qu'on allait se constituer partie civile. Mais croyez-moi, ça n'a pas été évident. Je me suis battue pour sa constitution partie civile.
Ça fait du bien de rencontrer un avocat dans ces cas-là, quand même.
Ah oui, ça fait du bien. Surtout quelqu'un qui ne lâche pas, et vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui lâche. Et j'étais horrifiée par cette énorme escroquerie. Bien sûr, dès le départ, l'employeur a dit, on va la licencier. Donc, tout de suite, ils l'ont révoquée, parce qu'elle a un statut de fonction publique. Et j'ai obtenu devant le tribunal administratif l'annulation de révocation. Donc j'étais très contente, c'était un premier pas. Mais malheureusement, en appel, la cour d'appel a estimé que voilà, c'était pas normal. Donc ils ont considéré que c'est trop grave et donc elle a été définitivement été révoquée. Et comme elle est titulaire de la fonction publique, elle n'a pas pu bénéficier du chômage. Elle n'avait plus rien. Elle s'est retrouvée à la rue, SDF. Donc c'est dramatique. Pendant des années, c'était vraiment pour elle la descente aux enfers. Elle a été nourrie par la mairie parce que la mairie lui donnait des tickets. Effectivement, c'est vraiment dramatique. Grâce au CCAS et compagnie. Et ensuite, elle a perçu le RSA alors même qu'à la base, elle percevait des revenus extrêmement confortables.
Mais alors, Valérie,
il n'y a pas de compassion. Hein.
Alors c'est la question que j'allais vous poser.
Il n'a pas de compassion.
Parce que quand choses arrivent à ses victimes.
Voilà, mais quand je lui dis, mais quand même, les gens. Les entreprises, alors il n'a aucune compassion, dit, quand je me fais passer pour un patron, je prends comme un patron. Voilà, clac. Ouais. Et quant aux victimes, il dit, mais si elles ne voulaient pas, elles avaient qu'à raccrocher.
Voilà. Alors, ça ne se passe pas comme ça.
Il a quand même tout fait pour qu'elle raccroche pas, quand même.
Effectivement, votre cliente, maître, on voit bien, elle a été appelée 48 fois en moins de 24 heures. Enfin, c'est du harcèlement, et c'est de l'isolement. Enfin, il y a une vraie technique, mais quelque chose qui l'applique. J'allais dire comme un don, quoi. Enfin, c'est pratiquement d'instinct.
Alors, il nous reste moins de 2 minutes, maître Novakovic. C'est que vous connaissez la radio.
Oui.
Même à d'autres heures. En deux minutes, quels conseils on peut donner à ceux qui nous écoutent, qui sont soit chefs d'entreprise, soit comptables, soit employés de grands groupes? Que faire si on a son président au téléphone? C'est pas suffisant.
Voilà, c'est pas suffisant. Il faut absolument, déjà, quand ils ne connaissent pas physiquement le président, il faut vraiment en interne appeler directement le président ou la secrétaire particulière pour qu'il y passe d'urgence, qu'il fasse un mail en disant est-ce que c'est bien vous qui m'avez contacté? Et bien sûr, ne pas y croire, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un président ne va pas contacter.
Surtout si le coup de fil a lieu le dimanche ou le soir à 22h.
Mais évidemment, bien sûr. Et on peut aussi conseiller, surtout les chefs d'entreprise, d'informer leur personnel, de faire des réunions de travail en expliquant, en disant attention, si jamais on vous appelle, sachez que ça n'est pas moi, parce que moi je viendrai vous voir physiquement, je demanderai un rendez-vous physique et certainement pas au téléphone pour une action aussi grave. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Donc informer absolument son personnel, c'est vraiment le béaba.
Toute dernière question, Véryne Senneville, je reviens à votre interview, votre rencontre avec ce personnage quand même pas comme les autres. Comment il voit l'avenir, là? Il se dit, maintenant, il y a trop de gens qui imitent ce que j'ai fait.
Enfin, oui, en fait,
oui. Ou il mitonne le coup du siècle, encore.
En fait, il dit, ça rapporte plus. Sa crainte, c'est d'être perçu comme le gourou de l'arnaque au président. C'est-à-dire que...
Bah, vous savez qu'il y a eu une tentative auprès de l'Élysée. Quelqu'un s'est fait passer pour Air France en disant, oui, on appelle parce qu'il y a des collaborateurs de l'Élysée, vous avez acheté des billets, il faut les rembourser. Il y en a pour 2,5 millions quand même d'euros, etc. Ça n'a pas marché parce qu'ils sont méfiés à l'Élysée. Et Chicli, lui, quand il a lu ça dans le journal, je crois que c'est le Canard Enchaîné qui en a parlé, il a appelé directement pour dire « c'est pas moi ».
Ah oui, non, mais parce que...
Il s'est dit, il ne faut pas que je me mette le président de la République française à dos, quoi, finalement.
C'est ça, il l'a signalé, il a même signalé à des journalistes. Et juste, je voulais juste vous dire un dernier point très important, c'est que ma cliente a quand même reçu, enfin, monsieur Chicli a été condamné, à lui verser 11 500 euros, quand même. Oui. C'est pas rien, à titre de dommages et intérêts, c'est important symboliquement, parce qu'au départ, elle avait très peur, au contraire, de se retrouver mise en examen. Donc là, c'est un autre statut, et c'est très important pour elle.
Je vous remercie, toutes les deux, de nous avoir éclairés sur cette incroyable escroquerie au président. Véryne Senneville, on va certainement se revoir un jour ou l'autre avec la journaliste
avec
Isabelle Orlans, qui est une habituée aussi de cette émission, parce que vous publiez au début du mois de janvier, donc 2016, Les Grands Fauves du Barreau. Alors voilà, ça va vous intéresser, Sylvie Novakovic. Il faut envoyer un bouquin absolument à Maître Novakovic. C'est un livre qui va paraître aux éditions Kalman-Lévy, mais on va laisser passer la trêve des confiseurs et on se retrouvera en janvier.
Avec plaisir.
L'émission est terminée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Dans un instant, on va essayer de retrouver Flavie Flamand. Je suis très en retard, je suis désolé.